Studio Tamani, voici les informations en français.
8h à Bamako, la même heure partout au Mali. Vous écoutez Studio Tamani, mesdames, messieurs, bonjour, voici les titres de cette matinale. Les amis de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon demandent la déclassification des documents concernant l'affaire de l'assassinat des deux journalistes. C'est dans ce contexte qu'intervient ce 2 novembre la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Recrutement pour intégrer l'armée malienne à Bamako et dans les régions, des candidats n'arrivent toujours pas à se procurer certains documents. Pourtant, le dépôt des dossiers prend fin aujourd'hui. Au Mali, il existe plusieurs pratiques interdites par la société. C'est le cas du balayage la nuit. Pourquoi? On en saura plus dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la présentation Sekou Gadjigo, mise en nom de Mamadi Keïta. Aujourd'hui, 2 novembre, est célébrée la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Elle a été initiée en 2013 par l'ONU en mémoire aux deux journalistes français, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, tués le 2 novembre 2013 dans le nord du pays. Pour la commémoration de cette année, Reporters sans frontières alerte sur les risques de faire du journalisme d'investigation dans les pays du Sahel. Les détails avec Fatoumata Koudjo.
La journée de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes vise à rappeler des crimes contre les journalistes. C'est aussi une occasion pour demander aux autorités de mettre en place des mécanismes de protection pour les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Le lundi dernier, les amis de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon, des journalistes assassinés au Mali, ont tenu une conférence de presse en France. Depuis 10 ans, on se bat pour avoir un semblant de vérité sur cet assassinat injuste et intolérable, a déploré Marie-Solange Poinceau, la maman de Ghislaine Dupont, au cours de la rencontre. Par ailleurs, Reporters sans frontières souligne qu'il est presque impossible de faire du journalisme d'investigation au Sahel. Il note qu'une dizaine de journalistes ont été tués en 10 ans et plus d'une centaine arrêtés. L'organisation affirme que le Sahel risque d'être une zone non informée. La commémoration intervient au moment où Amadou Nyalibouli, Moussa Bana Diko ou encore Birama Touré, tous des hommes des médias, sont toujours portés disparus. Pour les derniers cités, les autorités ont précisé que l'enquête est toujours en cours.
Des journalistes maliens ont aussi disparu il y a des années sans suite, le disait à l'instant Fatoumata Koudjo. Le président de la Maison de la Presse déplore la lenteur des enquêtes sur ces disparitions. Néanmoins, Bandjougou Danté invite ses confrères au professionnalisme qui peut contribuer à mettre le journaliste à l'abri des dangers du métier. Bandjougou Danté, président de la Maison de la Presse, est au micro de Fatoumata Koudjo.
Ça me rappelle effectivement le cas Birama. Depuis déjà plusieurs années, les enquêtes sont ouvertes. Un procès n'a jamais eu lieu. Les journalistes maliens font face à beaucoup de difficultés. Nous sommes dans un pays qui connaît une crise multidimensionnelle. L'exercice du métier de journaliste devient difficile. Il y a des menaces aussi. Cette loi sur la cybercriminalité, quand c'est appliqué à une personne, on ne tient pas compte de son statut de journaliste. Et c'est une loi au contour sévère et c'est très compliqué. La Maison de la Presse fait le lobbying, le plaidoyer nécessaire. Appelle surtout les journalistes à la responsabilité et au professionnalisme, qui sont les premiers garants contre les menaces.
Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, en partenariat avec l'Institut danois des droits de l'homme, IDDH, a lancé ce 1er novembre 2023 ses activités de donation aux établissements pénitentiaires. À Bamako, le parloir de la maison centrale d'arrêt, c'est-à-dire la pièce où les visiteurs peuvent parler avec un détenu, a été réhabilité. Un moulin a été offert à la maison d'arrêt de Blas. Des projecteurs solaires ont été donnés aux établissements pénitentiaires de Barouili et de Fana. Les explications avec Aguibou Boiré, président de la CNDH. Il est au micro de Lala Aïcha Wallet Imfa.
Doter certaines maisons d'arrêt en moulins fonctionnels pourrait avoir un impact positif sur l'alimentation des pensionnaires. L'on peut noter que si les cellules et les quartiers sont bien éclairés dans certaines maisons d'arrêt et unités d'enquête, l'éclairage demeure un luxe dans d'autres. Sur les difficultés liées aux conditions d'accueil des visiteurs dans les parloirs, l'on peut souligner que l'essentiel des visites se déroule dans des espaces ouverts. C'est fort de toutes ces constatations que l'Institution nationale des droits de l'homme a entamé un long plaidoyer auprès de certains partenaires en vue d'humaniser les lieux privatifs de liberté à travers l'amélioration des conditions de détention.
À l'instant, Aguibou Bouhari, président de la Commission nationale des droits de l'homme, il était au micro de Lala Aïcha Wallet Infa. 8h05 à Bamako, l'affluence est grande devant les tribunaux et les centres de dépôt des dossiers pour le recrutement au sein des forces de défense et de sécurité. Des candidats continuent de déposer leurs dossiers après la prolongation par les autorités de la date limite pour la réception de ces candidatures. Cependant, certains candidats à Bamako et dans les régions restent préoccupés par l'acquisition des pièces à fournir alors que le dépôt des dossiers prend fin demain. Le point avec Sita Sidibé.
À Bamako, comme dans les régions, les jeunes continuent à se bousculer devant les centres de dépôt des dossiers. Certains jeunes affirment qu'ils sont toujours heurtés à des difficultés.
Je suis là depuis le lundi. Au début, c'était rapide, mais maintenant, c'est très lent. On vient tôt le matin et le rang est désordonné.
Je préfère faire mon dépôt dans le génie militaire. Nous sommes des électriciens. Je suis venu ce matin.
Sincèrement, je n'ai pas pu faire mon dépôt depuis le lundi. Je suis quand même le rang.
Dans les régions de Koutiala et Banyangara, l'affluence est plutôt grande devant les tribunaux locaux. Les candidats potentiels au recrutement dans l'armée se bousculent.
Les délais augmentés ont quand même permis aux retardataires ici à Banyangara de récupérer leur dossier au niveau de la...
Je suis venu au tribunal de Banyangara pour chercher mes dossiers.
Depuis mon arrivée, on nous a dit que le casier judiciaire est en rupture.
Ces derniers jours, le manque de casier judiciaire pose problème. Sinon, la nationalité, on en trouve.
Tous ces postulants se réjouissent de la prolongation du délai de dépôt des dossiers.
Le reportage de Sita Sidibé sur un tout autre chapitre. À présent, nous avons grandi avec certaines idées reçues dans le balayage la nuit. En fait, au Mali, balayer la nuit est considéré comme un interdit chez beaucoup de personnes. Cette histoire tire son essence d'où certaines personnes estiment que balayer la nuit peut avoir des conséquences, notamment la pauvreté. Notre reporter Citan Dambélé s'est intéressé au sujet. Voici son reportage.
Le balayage la nuit n'est pas du tout recommandé par notre société, car chez beaucoup, cette pratique peut entraîner le malheur. Croyance ou mythe, certains y croient toujours.
L'interdiction existait bien avant notre naissance, et dans notre famille, on ne le fait pas.
Certains disent qu'on peut balayer la nuit, mais qu'on ne ramasse pas les ordures.
Quand tu veux être bien propre, donc tu dois tout réaliser pendant la journée.
Et pourtant, certains traditionnalistes expliquent que c'est une ancienne croyance qui n'est plus d'actualité. Marie Djenyari, traditionnaliste et chef de quartier de Nyarela.
C'est pas une bonne chose autrefois parce que la seule lumière qui existait, c'était la lumière du bûcher qu'on allumait au milieu de la concession la nuit, ou bien la bougie traditionnelle, c'était la seule lumière disponible. Avec ça, on peut pas balayer la nuit. Mais c'était vrai autrefois, mais ce n'est plus vrai aujourd'hui parce qu'il y a le courant électrique, il y a l'électricité partout. On peut balayer la nuit maintenant.
Le traditionnaliste précise que nos aïeux étaient des grands illuminés qui avaient mis en place certaines dispositions. Même si de nos jours, ces interdits passent pour de la superstition pour beaucoup de personnes.
À présent, la rubrique Zoom sur aujourd'hui, notre chronique s'intéresse aux élèves qui font l'école buissonnière, c'est-à-dire ces élèves qui sèchent les cours ou encore qui se disent non intéressés par des matières. C'est avec notre chroniqueuse Lale Tangara.
Pour ces adeptes de l'école buissonnière, les cours ne leur serviront à rien. Une fois le professeur en classe, ces élèves prennent leurs affaires et sortent. Une fois dehors, ils ne vont pas directement à la maison. Non, pas du tout. Ils prennent une autre direction, différente du chemin de retour, parce que ce n'est pas encore l'heure de la descente. Ces élèves ou étudiants ont un lieu spécial de rencontre. Sur place, ils se retrouvent entre chômeurs de cours. Cet endroit est appelé Palais des chômeurs. Là-bas, tous les sujets sont débattus et même les cours prochains à chômer. Ainsi, chers parents, on vous demande de faire des visites inopinées dans les établissements de vos enfants pour prendre de l'air nouvel, car l'école, c'est un autre monde. Et si un enfant n'a pas de bonne compagnie, il fera tout sauf étudier.
Vous pouvez retrouver ce journal ainsi que toutes les productions de Studio Tamani via l'application studiotamani.org disponible via l'application Studio Tamani plutôt disponible sur Play Store. Vous pouvez également réécouter ce journal via la plateforme Viamo. Cette édition a été présentée par Sikou Gadjigo. Merci de l'avoir suivi. Mamadi Keïta sur la mise en onde. Tout de suite, Aissata Diarra sera là pour le journal en Bamanankan. Au Mali, nombreux sont les malades qui arrêtent leur traitement sans obtenir un avis médical. Les raisons évoquées sont diverses selon les patients. Cependant, des spécialistes de la santé indiquent que tout écart thérapeutique ou arrêt de traitement en cours accroît les risques d'apparition de résistance des agents pathogènes, mettant ainsi en péril le succès des traitements à venir. Le sujet est développé dans notre magazine Santé du jour. C'est une présentation de Ali Cissé.
La rupture des traitements médicaux, l'utilisation des produits traditionnels ou la combinaison des deux thérapies par des patients est récurrente au Mali. Comme le témoignent ces personnes rencontrées à Bamako, Bankas, Kayi et Sikasso.
Quand moi je vais à l'hôpital et qu'on me donne des traitements, quand je prends les premiers traitements que ça va, je me dis qu'il y a de l'amélioration, donc je ne continue plus.
On ne sait pas quel médicament peut guérir la maladie, donc on mélange les deux. L'essentiel, ça, c'est retrouver la santé.
Les médicaments pharmaceutiques sont comme la drogue, ça ne guérit pas du tout la maladie.
C'est pourquoi on mélange les deux pour vite guérir.
L'autre ne guérit pas alors que le malade veut retrouver sa santé.
Pourtant, l'écart thérapeutique ou l'arrêt des traitements peuvent engendrer de graves conséquences sur la santé des malades selon des médecins. Pour le docteur Modibo Doumbia, président du Conseil national de l'Ordre des médecins, rien ne peut justifier l'arrêt des produits pharmaceutiques au profit des médicaments traditionnels.
Le traitement obéit à certaines règles en termes de durée, donc la durée doit être complétée, quelle que soit l'évolution sur la maladie. Quels que soient les effets secondaires des médicaments, il ne faut pas arrêter. Les médicaments traditionnels ne sont pas bien dosés. C'est des médicaments qui peuvent entraîner soit une insuffisance rénale, ça peut entraîner une insuffisance hépatocellulaire, ça entraîne plus de complications que des solutions.
Les prescriptions médicales doivent être suivies à la lettre au risque de s'exposer à d'autres pathologies plus graves, poursuit Dr Modibo Doumbia.
Tout arrêt de traitement entraîne des conséquences néfastes sur la santé de nos populations. Une fois que le médicament est prescrit par le médecin, son arrêt doit être consigné par le même médecin. Et donc, un arrêt spontané de certains traitements peut engendrer d'autres maladies graves.
L'interruption des traitements par les malades impacte aussi négativement les chiffres d'affaires des officines. Dr Youssouf Diarra, pharmacien, souligne que l'arrêt du traitement par le patient est une mauvaise publicité pour ces marques de produits pharmaceutiques.
Ce patient qui nécessite un traitement plus coûteux, carrément, le pharmacien, il va le sentir. Parce que s'il n'a pas le pouvoir d'achat, il ne pourra pas acheter même si l'assurance couvre une partie. Ce patient qui abandonne le traitement aussi va systématiquement dire non. Moi, je n'ai pas confiance aux médicaments de la pharmacie, j'ai à les prendre deux ou trois fois, ils n'ont pas pu guérir mon mal. Et cette connotation que ce patient a des médicaments de la pharmacie peut se proliférer dans la communauté par un effet de contamination. Et les gens, ils vont croire que non, les médicaments à la pharmacie ne sont pas efficaces.
L'arrêt des soins constitue une perte pour la Caisse nationale d'assurance maladie, CANAM. Ainsi, ses responsables recommandent aux spécialistes de prescrire des médicaments qui conviennent aux patients.